Turning now to the Gospel of Luke and chapter 9, verse 23. The Gospel.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 23. L'Évangile de Luc, chapitre 9, verset 23. Ces paroles de Christ. Or, il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et le sujet ce soir est une question très simple. Votre vie, êtes-vous perdu ou sauvé? Et nous allons considérer trois déclarations courtes et énigmatiques de Christ. Il y a beaucoup de cette déclaration. Il a donné des prédications longues, souvent ponctuées de ces déclarations très courtes et énigmatiques et surprenantes. Et il vient d'expliquer aux disciples, pour la première fois, d'une manière explicite, au verset 22, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes. » Et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. » C'est tout ce qu'il dit à ce moment-là. C'est tout ce qu'il dit par rapport au fait qu'il se laissera arrêter et crucifié à une croix, et qu'il ressuscitera des morts. C'est comme une introduction, un indice, et les disciples ne peuvent pas comprendre ces choses. Mais il dit ces paroles, et ensuite nous lisons, « Il disait à tous... » Et ceci est souligné dans l'évangile de Marc, où il est écrit qu'il a appelé toute la foule à lui. Il y avait de grandes foules pas loin qui l'attendaient. Et à présent, il les appelle tous. Et ces paroles sont dites pas seulement aux disciples, mais à toute la foule. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quand Christ parlait, il y avait tant de compassion de sa part pour leur âme, pour leur condition spirituelle. Son apparence n'impressionnait pas. 700 ans avant qu'il ne vienne, le prophète Ésaïe dit qu'il n'a pas de beauté ni d'apparence spéciale et quand nous le verrons, il n'y a rien en lui pour le désirer. Il n'y avait rien dans son apparence, rien de spectaculaire, rien de surprenant. Mais quand il prêchait, quand il parlait, oh, vous vous souvenez de la réaction de ce groupe de la milice du temple qui a été envoyé pour l'arrêter. Ils ont dit, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Les grandes foules étaient là pour l'écouter. Et cependant, tous ne répondaient pas à sa prédication. Quand il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il y a cette compassion pour eux. Mais ils n'ont pas tous répondu à son message. Et ceci nous amène à notre premier point ce soir. Tous ne sont pas sauvés. Et par sauvés, je veux dire par là que tous les gens ne viennent pas à Christ pour le salut. Tous ne vont pas fléchir le genou devant lui. Tous ne vont pas se repentir de leurs péchés et se confier dans ce qu'il a fait quand il est mort à la croix du calvaire, comme étant le seul moyen pour être pardonné. Christ est venu dans ce monde, il a souffert, il est mort pour ceux qui se confient en lui. Tous les gens ne vont pas croire en lui ou lui donner leur vie. Et ceci est contenu dans ses paroles ici. Il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi. Et ce sera notre premier point rapidement, si quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de si. Et Christ utilise cette approche envers les gens beaucoup de fois, si quelqu'un vient, ceci dépend bien sûr de notre réponse à son appel. Tous ne vont pas le chercher et le trouver. C'est là la tragédie, si quelqu'un. Un terme si court et c'est si important. Si, est-ce que vous serez l'un de ceux qui va venir à Christ, qui va se repentir de son péché? Et vous allez réaliser votre besoin de lui et lui donner votre vie. Ceci est si important parce que l'éternité dépend de ce terme. La vie dépend de ce « si ». Et comment vous vivez votre satisfaction dans la vie si vous vivez une vie limitée, limitée à ces choses présentes, matérielles, terrestres, ou si vous marchez avec Dieu et vous avez ces choses spirituelles, la vie spirituelle, la puissance spirituelle, la communion avec Dieu, tout dépend de ce terme « si ». Si quelqu'un vient, et il ne dit pas « si quelqu'un va vivre une vie juste, droite, alors cette personne sera sauvée », ou « si quelqu'un va dans un monastère ou dans un couvent, alors ceci sera en leur faveur ». Non, il n'y a rien de cela, ceci est un non-sens. Si quelqu'un veut venir après moi et me suivre et va dépendre de moi et se tourner vers moi, et nous démarrons ici, tous n'iront pas au ciel, tous ne seront pas sauvés. Pourquoi est-ce que les gens ne répondent pas à l'appel de Christ? Pourquoi pas? Si quelqu'un vous dit, vous êtes jeune et vous commencez dans votre vie, vous êtes là dans cette ville si grande et si chère, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez habiter? Et comment est-ce que vous allez pouvoir avoir un appartement? Quelqu'un vous dit, je vous donne une maison ou un appartement, c'est à vous. Est-ce que vous allez dire, non, je n'en veux pas, je ne vais pas l'accepter? Non, bien sûr que non. Si quelque chose vous est donné avec une bonne volonté ou quelqu'un vous donne une fortune, est-ce que vous allez dire non? Bien sûr que non. C'est un non-sens. Mais si Christ vous dit, vous pouvez avoir le pardon de vos péchés, une vie nouvelle et cette communion avec moi et le ciel et la félicité céleste, après cela, vous pouvez avoir un but éternel dans votre vie. Alors, nous courons à lui de toutes nos forces. Mais la race humaine est, par nature même, rebelle contre lui. Nous courons loin de lui. Pourquoi? Pourquoi résister? Pourquoi refuser cet appel si bon, si extraordinaire? Pourquoi le rejeter? Et pourquoi courir loin de lui? Parce que nous sommes déterminés à avoir notre propre volonté, ma propre vie, ce que je veux, mes chemins, ma volonté. Je ne veux pas me soumettre à Dieu ou à quiconque. Je ne veux pas abandonner ma propre détermination. C'est cet orgueil de notre être humain et cette résistance contre Dieu. Et nous aimons les choses terrestres. Les choses célestes et éternelles sont distantes et si petites à nos yeux. Et nous sommes si limités et étroits dans notre perspective. Nous pensons uniquement à ce monde et nous pensons que le monde va nous satisfaire entièrement, cette vie présente. Et nous n'avons pas de perspective pour Dieu, pour la vérité, pour ses desseins, pour ses buts et pour l'éternité. C'est là le problème dans notre nature même. Nous résistons loin de Dieu. C'était là mon premier point. Tous ne seront pas sauvés. Mais le deuxième point que nous trouvons dans cette déclaration énigmatique est souligné le salut, la conversion à Dieu, le découvrir, le trouver, marcher avec lui. Ceci est quelque chose de très personnel dans les paroles mêmes de Christ. Et il disait à tous, si quelqu'un, tout est au singulier, si quelqu'un, quiconque, toute personne veut venir après moi, c'est quelque chose de personnel, d'individuel. Personne ne peut vous représenter. En ce qui concerne la communion avec Dieu, personne ne peut prier à votre place ou le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. C'est quelque chose d'intensément personnel. Il y a bien des années, j'ai écrit une biographie courte de quelqu'un d'extraordinaire qui a vécu de 1850 à 1936, et son nom c'est Fred Charrington. Et au 19e siècle, il était le fils et l'héritier de la brasserie Charrington, qui était dans l'est de Londres. Le nom Charrington était écrit sur beaucoup de pubs, de bistrots à Londres. Et on ne les voit plus trop depuis la fin des années 1990. Mais c'était une grosse brasserie anglaise. Et le fils, l'héritier, à l'âge de 19 ans, Fred Charrington, Il était riche, très riche, il allait hériter d'une fortune et il avait un ami. Et ils ont décidé d'aller à la fin de leur temps d'université. Je crois qu'il finissait l'université à 19 ans, à cet âge-là. Et il est allé en vacances sur le continent avec un ami. Et cet ami était converti quelques semaines avant que ses vacances ne commencent. Et quand ils étaient là-bas, qu'ils voyageaient, il a essayé de l'influencer. Qu'est-ce que tu penses par rapport à Dieu? Qu'est-ce que tu penses par rapport à Christ? Bien sûr, il savait extérieurement tout par rapport à la foi chrétienne, parce que ces choses étaient enseignées à l'école à l'époque. Mais il était très impatient et il disait à son ami, « Tu vois, on est en vacances et ce n'est pas le moment de parler de religion, nous n'avons pas besoin de parler de ces choses. » Et il disait, « Après tout, c'est le travail du clergé que de nous emmener au ciel. C'est le travail du clergé. Ils sont payés pour prier pour nous amener au ciel. » Il ne pensait pas que c'était quelque chose de personnel. Il ne pensait pas que lui-même devait venir à Dieu. Il pensait que d'autres allaient le faire pour lui. Mais son ami continuait à lui parler et à la fin, Charrington a commencé à lire la Bible et il s'est converti. Peut-être vous ne connaissez pas l'histoire de cet homme, mais il a abandonné sa fortune, son héritage et la brasserie. Et il a commencé une œuvre missionnaire. Il était un réformateur dans son temps. Et il a fondé une grande église avec 5000 personnes. Et ils essayaient particulièrement de prêcher aux pauvres. Et à 36 ans, il était pasteur là. Et il est décédé avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il pensait que c'était le travail du clergé que de l'amener au ciel. Mais c'est quelque chose de personnel, profondément personnel. Et vous voyez ceci dans ce verset, « Si quelqu'un veut venir après moi, c'est pour vous et vous devez venir à Christ. Personne ne peut le faire à votre place. Si vos parents, vos amis sont des chrétiens sincères, ceci ne veut pas dire que vous êtes sur le chemin du ciel. Vous devez venir par vous-même. » Et c'était là mon deuxième point. Et le troisième point, j'aimerais parler de cette grande transformation, de la conversion à Christ. Ce grand changement, et c'est ici, dans ce verset, il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi. » C'est un terme bien plus profond qu'il n'apparaît. Si quelqu'un veut venir, venir d'où vous êtes et aller où il est. Et c'est un grand voyage. Cette grande transformation de la conversion. Avant que je mentionne plus par rapport à cela, j'aimerais dire que bien sûr c'est une transformation qui est entièrement donnée par la puissance de Dieu. Si je peux illustrer ceci d'une manière surprenante, je me souviens qu'il y a bien des années en tant que jeune, il y avait un ami qui allait à Oxford pour être accepté pour un travail. Il étudiait la biologie. Et il a été un peu surpris parce que pendant l'entretien, on ne lui a pas posé de questions directes, mais on lui a demandé d'expliquer, non pas d'écrire, mais d'expliquer à un jury de biologistes, dites-nous avec autant de détails que possible l'aventure d'un sandwich au jambon après que vous l'ayez mangé. Oh, ce n'est pas la manière par laquelle il a été enseigné à l'école. Et il a dû réfléchir et faire de son mieux pour expliquer le processus d'un sandwich au jambon. Et la raison pour laquelle je mentionne cette illustration un peu surprenante, c'est que d'une certaine manière, la conversion est de même. Vous mangez un repas, tout ce que vous faites, c'est de le manger. C'est simple. Mais le processus qui est impliqué pour vous donner de l'énergie, de la force, si j'étais un biologiste, peut-être que je pourrais expliquer ceci. Mais moi-même, je ne connais pas les détails. Mais ces processus sont nombreux, complexes. Mais vous ne faites pas ces choses consciemment. Tout ce que vous faites, c'est de manger votre repas. Et la conversion, c'est ainsi. Tout ce que vous faites, c'est de venir. Vous vous repentez et vous croyez et vous vous donnez à Christ. Ceci est facile, vous le recevez En un mot, vous le recevez. Mais alors que vous faites cela, et pendant que vous faites cela, le processus le plus compliqué, le plus complexe, se met en route par la main de Dieu, par la puissance de Dieu, et vous êtes transformé. Et c'est comme faire un voyage de la rébellion à l'obéissance. Votre cœur, votre disposition d'esprit, tout est transformé. Vous faites un voyage de l'ignorance à la compréhension. Et Dieu vous permet de comprendre toutes choses bien plus clairement qu'auparavant. Vous faites un voyage de la rébellion contre Dieu au service pour Dieu. Et vous faites ce grand voyage comme un voyage de haillons à la grande richesse, parce que vous êtes un pécheur perdu, sans héritage céleste, sans vie spirituelle, sans bénédiction, et après vous êtes un enfant de Dieu, un citoyen du ciel, sur le chemin vers la gloire céleste, et votre Dieu est votre ami. Vous étiez perdu, et à présent vous êtes trouvé par Dieu, et sauvé, et vous avez une identité. Auparavant, vous étiez faible, vous ne pouviez pas résister à la tentation et au péché. Et à présent, vous avez une nouvelle capacité, une nouvelle puissance, une nouvelle force pour combattre contre le péché. Auparavant, vous étiez une personne exclue, exclue de la présence de Dieu, de la faveur de Dieu. Et à présent, vous êtes une personne acceptée. Accepté par Dieu, non pas parce que vous méritez quelque chose, mais parce que Christ est mort pour payer le prix pour votre péché. Et il a vécu une vie parfaite et juste pour mériter le ciel à votre place. Auparavant, vous étiez spirituellement mort, et à présent, vous êtes en vie spirituellement. Vous ne faites pas ces choses consciemment, mais vous vous confiez en lui, en Christ. Vous vous repentez de votre péché. Vous vous donnez à lui, et tout ceci résulte de votre repentance, et c'est la conséquence, c'est une grande transformation, et Christ exprime ceci ainsi: si quelqu'un veut venir d'un certain type de vie à un autre type de vie, mais que de venir, pour nous, cela signifie le recevoir. Et c'est lui qui fait toute l'œuvre. Quelle transformation! Quelle transformation! Que de changer cette nature ancienne, méchante, malhonnête, égoïste, orgueilleuse, et de la transformer pour avoir une nouvelle valeur, des vertus, une nouvelle aspiration, de nouveaux désirs. Cette transformation, vous allez peut-être penser que ceci va mettre des années. Non, ceci est fait si rapidement. Le Seigneur Jésus-Christ l'appelle une nouvelle naissance. La naissance, c'est quelque chose de soudain. Il l'a dit à un chef juif important qui s'appelait Nicodème: si quelqu'un est né de nouveau, la nouvelle naissance, quand une personne se convertit, ceci est soudain. Et toutes ces choses extraordinaires se passent en très peu de temps. C'est là ce qu'il est venu faire dans notre cœur. C'est pour cela qu'il est venu. Et un autre point: nous approcher de Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, écoutez-le. Vous pouvez imaginer que vous êtes son disciple. Ceci signifie que vous le suivez partout, que vous écoutez chacune de ses paroles. Et c'est là ce que nous faisons. Nous l'écoutons. S'il nous dit « Repentez-vous », nous nous repentons. S'il nous dit « Confiez-vous en moi », nous nous confions en lui. S'il nous dit « Donnez-moi votre vie », nous le faisons. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. En grec, ce terme est puissant. Qu'il se déshérite lui-même entièrement. Littéralement, c'est se contredire soi-même. Qu'il se déshérite constamment, sa vie, entièrement, pour venir à Christ. Peut-être je suis plutôt satisfait avec moi-même, je suis l'une de ces personnes, comme quelqu'un dont le Seigneur parle, qui dit que « Oh, je te remercie Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, je suis une personne supérieure, j'ai accompli ceci et cela. Je pense que j'ai une bonne personnalité. » Peut-être que nous pensons ces choses, Oh, je pense que je suis une personne droite qui vit bien. » Le Seigneur dit non, non. Et c'est ainsi que vous approchez de lui. Vous renoncez à vous-même entièrement. Vous dites non, je suis dans l'erreur entièrement. J'ai été complètement insensé devant Dieu. Je suis un échec total, un pécheur. Et j'ai gâché ma vie. Je me suis rebellé contre lui. Je me suis détourné de lui. Et avec orgueil, je l'ai méprisé et rejeté. Et je n'ai pas cru en lui. Je déshérite complètement la personne que j'ai été. Je renonce à la personne que j'ai été. Et je viens à Christ, et ainsi que nous venons à lui, et nous mettons de côté cet orgueil insensé et toutes nos idées que nous imaginons par rapport à notre droiture. Et nous venons comme étant un pécheur qui a besoin de lui, qu'il renonce à lui-même. Ceci semble enseigner de renoncer à peut-être au sucre et au thé et au sel. Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Qu'il déshérite sa propre vie, qu'il renonce à sa propre vie. Ce n'est pas renoncer à certaines bonnes choses, mais c'est se voir réellement nous-mêmes comme nous sommes aux yeux de Dieu et se repentir par rapport à son passé, qu'il renonce à lui-même, qu'il se contredise lui-même quand il vient à moi. On ne nous demande pas de grimper une montagne ou de passer un examen difficile. Non, nous devons simplement chercher le pardon et nous devons renoncer à notre vie ancienne parce que nous méritons uniquement la condamnation. Le temps est presque passé, j'avais un autre point qui est le suivant. Quand vous venez à Christ, c'est là l'approche. Nous venons pour la vie, vous lui donnez votre vie entièrement. C'est ce que cela signifie, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ce que le Seigneur veut dire par cette déclaration, c'est que vous lui donnez votre vie une fois pour toutes et vous mourrez à votre vie ancienne, la croix. Les Juifs à l'époque savaient tout par rapport à la croix. C'était la méthode romaine d'exécution, de condamnation. Christ donne simplement un indice ici. Il n'explique pas entièrement. Non seulement il va souffrir et mourir, mais cela sera sur une croix. Elle mentionne la croix ici parce qu'il y a comme un reflet de cette croix pour nous. Lui meurt et il souffre pour prendre la condamnation de notre péché à notre place. Et nous mourrons, mais pas en souffrant. Nous mourrons dans le sens de mourir à la vie ancienne. Nous mourrons à ce monde incroyant. Et nous n'admirons plus le monde incroyant, nous ne le suivons plus, nous ne l'adorons plus, mais nous suivons le Seigneur. C'est aussi simple que cela, c'est là ce qu'il veut dire par se charger chaque jour de sa croix. Vivez pour lui, si je viens à Christ ce soir, que je me repente de mon péché, que je crois en lui et à la croix du calvaire, que je lui donne ma vie, ce n'est pas simplement pour aujourd'hui, ou même pour la semaine à venir, ou pour le mois à venir. Et ensuite, je peux changer de chemin. Non, c'est pour la vie. C'est quelque chose qui est pour toute ma vie. Je lui donne ma vie et il va me transformer et je serai son enfant durant toute ma vie et pour toujours. Et il va me garder. Il va me soutenir. Je serai née de nouveau. J'aurai une vie nouvelle qui ne peut pas être détruite. Et c'est là la signification. Et je vais conclure. En considérant ceux qui hésitent, est-ce que nous hésitons ? Oh, mais je veux encore m'accrocher à ces choses que je veux accomplir dans le monde. Peut-être parlez-moi à nouveau quand je suis sur mon lit de mort, plus tard, mais pas à présent. Pas maintenant, je ne suis pas prêt à venir à Christ, à lui donner ma vie. Si nous pensons ainsi que nous hésitons, il y a cet appel final. Pour nous persuader au verset 24, car quiconque voudra sauver sa vie présente, sa vie sans Dieu, sa vie de rébellion, quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Parce que vous allez vieillir et vous allez mourir, et peut-être que vous allez mourir même avant de vieillir. Et tout sera fini. et votre occasion de venir à Christ sera finie, passée. Il sera trop tard, et pour vous, le jour de miséricorde est passé. Quiconque voudra sauver sa vie présente, sans Dieu, incroyante, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie présente d'incrédulité, en se repentant, en se donnant à Christ, celui-là la sauvera, il recevra la vie éternelle. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? En grec, c'est « à quoi est-ce que ceci sert-il ?» Aussi simple que cela. En quoi est-ce que ça lui est utile s'il gagne tout le monde et s'il se perd lui-même? Il gagne tout le monde. Ceci est plutôt improbable, mais imaginez que vous pouvez gagner une grande fortune ou peut-être une grande propriété et de la richesse et peut-être de la célébrité. Imaginez un instant. À quoi est-ce que cela vous sert? Vous êtes la même personne. Vous avez une grande dette de péché à payer sous la condamnation de Dieu. Séparé de lui, loin de lui, sans vie éternelle, sans communion avec lui, sans amis au ciel. À quoi est-ce que cela vous sert, toute cette richesse, tout ce que vous pouvez gagner dans le monde? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Et finalement, car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, est-ce que ceci est possible, avoir honte de Christ? Honte de ses paroles? Honte, en grec, c'est plutôt quiconque est embarrassé. C'est là l'idée du grec. Honteux. Embarrassé. Est-ce que vous êtes embarrassé à cause de Christ? Oh, ceci est un peu embarrassant que d'entendre que j'ai besoin d'un sauveur, que j'ai besoin d'être pardonné de mon péché. Ceci est honteux que d'entendre que devant Dieu je ne vaux rien, je ne suis rien, que j'ai besoin de son amour, de sa bonté, d'une vie nouvelle, de son pardon, du don, du salut et du ciel. Oh, ceci est embarrassant. Que d'être assis là et d'écouter ceci. Quelle tragédie, chers amis. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, au jour dernier, le grand jour. Mais nous voyons ici l'amour de Christ qui est prêt à sauver. Il est prêt à nous transformer. Il est prêt à nous bénir. Si nous croyons en lui, que nous nous confions en lui, que nous nous repentons de notre péché et que nous lui donnons notre vie. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce à chacun, nous te prions, et aide-nous. Ô Seigneur, que nous puissions te chercher, te trouver, toi le seul Sauveur, et connaître sa bonté, son toucher et sa puissance qui sauve. Seigneur, viens et œuvre en chacun d'entre nous. Seigneur, à partir de ce jour, nous te le demandons dans le nom de notre Sauveur et pour sa gloire. Amen.